Bonsoir à toutes et à tous. Le Collège de France et moi-même, je suis Pierre-Michel Menger, je suis le titulaire de la chaire de sociologie dite du travail créateur ici. Donc le Collège de France et moi-même sommes heureux d'accueillir pour 4 conférences dans le cadre d'une chaire d'État du Collège, Madame la professeure Michèle Lamont, qui est Robert Goldman, Professor of European Studies, Professor of Sociology and African American Studies à Harvard University, et qui sera maintenant et bientôt directeur du Weatherhead Center for International Affairs de Harvard. Et Michèle Lamont, pour la présenter en quelques mots, c'est l'objet de ma petite intervention, a été formée initialement au Canada, puis aussi en France, où elle vient souvent. Elle a fait sa thèse, d'ailleurs, en France, à Paris. Elle est devenue professeure à l'université de Princeton en l'an 2000, et puis elle a rejoint Harvard en 2003. Sa bibliographie, que vous trouverez aisément, comporte des ouvrages importants qui ont été traduits dans de nombreuses langues. Je vous signale pour la France « La dignité des travailleurs », paru en traduction à Sciences Po en 2002. Sciences Po est une des institutions en France où elle est, souvent, comme aussi à l'École des hautes études. Il y a également l'ouvrage « La morale et l'argent », « La culture des cadres en France et aux États-Unis », qui est paru en traduction en 1995. Un ouvrage plus récent de 2009, « How Professors Think »,« Inside a Curious World of Academic Judgment », qui est paru à Harvard University Press en 2009, et un autre ouvrage qu'elle a co-dirigé avec Peter Hall, qui s'appelle « Successful Societies ». Je pense qu'elle reviendra sur un certain nombre des résultats essentiels de ses travaux, de ses contenus dans ses livres. Elle est évidemment aussi l'auteur de beaucoup d'articles, de très nombreux articles et chapitres d'ouvrages. Vous le trouverez sur son site de Harvard, tout ce que vous cherchez, et y compris vous pouvez le downloader généreusement. Elle est donc l'invitée du Collège de France sur cette chaire pour 4 conférences en ce mois de mai 2015, chaque mardi à la même heure et dans cette même salle. Le thème général de ces conférences, c'est tel qu'elle me l'avait défini au début du processus d'invitation, c'était « Cultural Processes of Inequality ». Elle parlera en français essentiellement, mais je vous le donne dans l'échange que nous avions eu. Et je vais présenter en quelques mots le travail de Michèle Lamont. Elle le fera mieux que moi ensuite par la parole, mais tel que je l'ai présenté à mes collègues, voilà ce que j'ai dit sur Michèle Lamont. Ses recherches entendent renouveler les cadres théoriques et empiriques de la sociologie culturelle et de la sociologie morale. Michèle Lamont explore tout particulièrement les mécanismes d'attribution différentielle de valeur et de reconnaissance aux personnes à travers des opérations de catégorisation, de construction de frontières symboliques et culturelles des groupes sociaux, de stigmatisation et de discrimination. Le recours à cette notion de frontières symboliques, qui est un peu une marque de l'œuvre de Michèle Lamont, qui a eu un succès considérable, renvoie à une conception originale des inégalités sociales. L'identité sociale s'établit à partir de principes symboliques d'auto- et d'hétéro-identification et de catégorisation des groupes sociaux. Dans ses recherches, Michèle Lamont montre comment la stigmatisation diffère de la discrimination. La stigmatisation met en jeu les grandeurs sociales du respect et de la dignité des individus et des groupes, alors que la discrimination caractérise le déni d'accès, par exemple, à des emplois, à des activités, à des ressources disponibles aux autres groupes sociaux. Donc les inégalités, à partir de là, peuvent être caractérisées à partir d'écarts de ressources et des déterminants de leur reproduction, mais aussi à partir des moyens dont disposent les individus pour y faire face, depuis l'action collective et la consolidation de l'identité du groupe jusqu'aux moyens de gestion de l'identité culturelle en situation de stigmatisation ou de discrimination. C'est donc une sociologie du jugement de valeur, je le dis en soulignant le mot valeur, puisque ça a été le thème de mon premier cours ici. Il y a un certain nombre de résonances entre ces travaux de Michèle Lamont et ce que ici j'ai essayé de faire depuis que je suis professeur, et j'ai plaisir à le dire et à le souligner. Une sociologie du jugement de valeur a été progressivement élaborée par Michèle Lamont pour étudier les processus de valorisation ou de dévalorisation des qualités chez autrui et les imputations de moralité ou d'immoralité, si on entend par moralité l'ensemble des normes, des prescriptions conçues comme ayant une valeur supra-individuelle et s'appliquant aux responsabilités, aux devoirs à l'égard d'autrui. Cette perspective qui a été adoptée par Michel Lamont part des conduites et des représentations des acteurs sociaux pour explorer ce qui est soutenable ou insoutenable dans les attributions et les dénis de valeur. Le travail sociologique de Michel Lamont est par ailleurs fortement comparatif, et c'est une de ses vraies grandes originalités. Ses premiers travaux ont porté sur la classe moyenne supérieure et sur les ouvriers aux États-Unis et en France. Plus récemment, cette ambition comparative s'est élargie, elle vous le dira dans ses conférences, à l'étude comparée des comportements individuels et collectifs face aux stigmatisations dans les populations noires au Brésil, aux États-Unis ou en Israël. La sociologie de l'évaluation a de multiples terrains possibles. Dans un ouvrage récent, Michel Lamont a étudié les jugements de qualité qui préside à l'attribution de fonds de financement par des comités multidisciplinaires en sciences sociales et humaines dans des organisations de financement de la recherche. Et donc l'objectif était d'analyser comment peut-on procéder à une juste allocation de moyens de financement de la recherche et comment il faut se frayer un chemin entre l'exercice souverain de l'expertise disciplinaire, la culture de la délibération collégiale et les jeux stratégiques intéressés qui sont en principe disqualifiés. Les évaluateurs apprennent en quelque sorte, c'est ce que nous montre aussi Michel, à agir en usant d'une définition très imparfaite et très incomplète de ce qu'est la qualité ou l'excellence. Michel Lamont reviendra sur ce thème-là aussi, je crois, dans sa prochaine conférence, mais aussi dans un exposé qu'elle fera pour le colloque que j'organise ici même le 11 mai, c'est-à-dire la veille de mardi prochain, lundi prochain, sur le thème du travail et de l'emploi scientifique. Donc, nous l'accueillons à plusieurs titres, et je la remercie. Je lui donne immédiatement la parole en lui redisant mon plaisir de l'accueillir au Collège de France.
Merci beaucoup Pierre-Michel pour cette introduction généreuse et c'est avec grand plaisir que je me trouve ici et Pierre-Michel et moi nous nous connaissons depuis que nous étions étudiants doctoraux, alors ça me fait particulièrement plaisir après avoir vécu nos trajectoires parallèles au cours des 30 dernières années de se retrouver ici aujourd'hui. Alors que nous étions en correspondance concernant les conférences d'aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il y aurait dans la salle des gens qui sont pas universitaires et qui n'auraient pas nécessairement pris connaissance de mes travaux antérieurs, alors que je reconnais aussi plusieurs collègues avec qui j'ai été en conversation depuis plusieurs années. Alors, je vais essayer de combiner les registres d'introduction et aussi les registres de discussion entre experts. Et mon but, c'est de vous donner un peu un survol de différentes dimensions de mes travaux qui convergent autour de ce concept de mode de valeur. Alors, le sous-titre, c'est « Processus culturel de production de l'inégalité ». Et j'ai l'impression qu'il y a un peu d'écho dans le micro. Est-ce que c'est moi? Oui, est-ce que c'est possible d'ajuster un peu? Vaut mieux le mettre un peu moins fort parce que j'ai l'impression que je crie, non? Non? Ça va? OK, si ça ne vous dérange pas, je vais continuer. Alors, la première conférence ou la première leçon, l'invitation officielle dit leçon. Alors, je vais donc les appeler leçon. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de leçon, mais en fait. Ça concerne mes travaux, mes deux premiers livres, « La dignité des travailleurs » et « La morale et l'argent », qui sont des livres qui portent sur les frontières de classe, les frontières morales et les frontières raciales aux États-Unis et en France. Et je vais lier ces livres avec des réflexions sur la transformation des frontières symboliques dans le contexte français, mais aussi dans le contexte européen, au cours des 20 dernières années, des 30 dernières années. Pierre-Michel a mentionné le livre « Social Resilience in the Neoliberal Era », qui est sorti en 1993 et que j'ai co-édité avec le politologue Peter Hall. Ce livre présente les résultats d'une collaboration qui dure depuis 2002 avec un groupe de 14 experts en sciences sociales. Et nous travaillons ensemble sur cette question de résilience sociale qui est particulièrement pertinente dans un contexte où on voit les événements de la dernière semaine à Baltimore où les gens qui sont dans des positions de faiblesse, dans des positions de subordination, se révoltent. Et la question est à savoir comment est-ce que ces gens sont capables de se développer une résilience sociale, de quelle façon est-ce que les sociétés dans lesquelles ils vivent leur donnent des outils pour pouvoir rencontrer les défis auxquels ils vont faire face, est une question qui nous a beaucoup préoccupés et sur laquelle j'ai travaillé au cours des 10 dernières années avec une équipe de recherche qui inclut des Brésiliens, des Israéliens, des Noirs américains. Et la question qu'on se pose dans ce projet dont je parlerai dans la troisième leçon, c'est de quelle façon est-ce que le critère, le contexte national dans lequel les gens vivent, les répertoires culturels auxquels ils ont accès, mais aussi le degré auquel leur groupe constitue un groupe. On utilise ce concept de « groupness », nous permet de comprendre quel est le caractère des incidents auxquels ils font face. On leur pose la question « Have you ever been treated unfairly? » « Avez-vous déjà été traité de façon injuste? » Décrivez-nous ce que vous avez vécu et comment avez-vous répondu. » Et on explore leur expérience de stigmatisation et de discrimination. Les groupes comparés étant les Noirs aux États-Unis, les Noirs au Brésil et trois groupes en Israël, y compris les Éthiopiens juifs, qui ont fait les nouvelles au cours de la dernière semaine aussi, les Arabes palestiniens et les Mizrahim, les Juifs orientaux. Alors, ce sont des groupes qui sont stigmatisés de façon différente. Alors ici, la question, c'est comment est-ce qu'ils comprennent la définition de leur valeur telle qu'ils la vivent à travers le racisme quotidien, mais aussi quelles sont leurs réponses à ces incidents auxquels ils font face. Et vous allez voir qu'on développe un cadre théorique pour pouvoir comprendre les dynamiques causales qui sont en place. Et dans la troisième présentation, je vais élaborer ce schéma d'analyse ici qui sort d'un article qui a été publié dans Socioeconomic Review l'été dernier, dans un article que j'ai co-écrit avec Matt Clare et Stéphane Beljan, qui sont des doctorants à Harvard. Et comme vous voyez ici, on passe un peu des explications traditionnelles de l'inégalité chez Marx et chez Charles Tilly, aux explications plutôt de type bourdieusien, avec un accent mis sur les ressources culturelles. Et on se pose la question, de quelle façon est-ce que d'autres types de processus culturels peuvent nous permettre de comprendre comment est-ce que l'inégalité se produit. Alors, c'est un article un peu ambitieux dans le sens où on dit que la majorité de la littérature sociologique a mis l'accent sur les types 1, type 2, et on veut revisiter les questions d'évaluation et de stigmatisation et autres pour comprendre est-ce qu'il y a d'autres chemins pour la création de l'inégalité qui ont été négligés jusqu'à présent. Alors, ça vous donne un peu un tour d'horizon de ce qui est devant nous. La semaine prochaine, je discuterai, comme Pierre-Michel l'a mentionné, de mes travaux sur l'évaluation, non seulement le livre « How Professors Think » et un autre article qui est paru en 2012 dans Annual Review of Sociology qui propose un programme pour la sociologie de l'évaluation et de l'évaluation qui prend vraiment racine dans la sociologie française dans la mesure où plusieurs des auteurs clés dans la littérature présente qui travaillent sur les questions d'évaluation sont des sociologues français, mais aussi on propose un modèle qui va au-delà, qui analyse comment est-ce que les règles coutumières d'évaluation varient selon l'objet d'évaluation, l'auteur de l'évaluation et l'audience. Et on fait une comparaison entre l'évaluation de fiction reviewers, les gens qui écrivent des comptes rendus sur des livres de littérature, le cas que moi j'ai analysé qui est peer review, et le troisième cas c'est management consulting. OK? Alors, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est devant nous. OK. Alors, je commence en vous donnant un peu un survol de ces livres qui ont défini la première dizaine d'années de ma vie en tant que chercheur. Alors, comme certains d'entre vous le savez, en tant que jeune adulte, j'ai vécu ici à Paris pendant 4 années. Et pendant ces années, j'ai été, entre autres, étudiante de Pierre Bourdieu. C'était une époque assez extraordinaire dans la mesure où j'étais dans son séminaire en 1979, l'année où le livre « Distinction » a paru. Il a été traduit en anglais en 1984, mais déjà en 1979, on savait que ça allait être un livre très important. C'est un livre important en partie parce qu'il expliquait comment est-ce que la lutte des classes avait lieu à travers la consommation symbolique dans les relations quotidiennes et dans la formation de l'identité, dans l'expression de la culture cultivée et autres, dans l'attitude que les gens ont par rapport à la consommation culturelle. C'était assez révélatoire pour moi, venant d'une tradition humaniste marxiste. Avant que je vienne ici, j'étais étudiante en pensée politique à l'Université d'Ottawa. Et en tant que, j'aime décrire la situation en tant colonial, en termes colonial, parce que c'est vraiment ce qui se passait. Dans le contexte du Québec de 78, on lisait surtout Marcuse et Henri Lefebvre. On ne nous avait pas dit encore que Foucault existait. Et je l'ai découvert qu'en arrivant ici. Alors, on était pris dans la lutte, la coupure épistémologique et les batailles entre Poulanzas et... toujours est-il que c'était une transformation assez intéressante de comprendre comment est-ce que le rôle de la culture, de la superstructure, de l'idéologie dans l'exercice de la domination. Ensuite, en 83, je suis allée à Stanford comme postdoc. Et j'ai été tout de suite surprise de voir dans quelle mesure est-ce que le cadre analytique que Bourdieu nous donnait n'était pas approprié pour analyser ce qui se passait dans le contexte de Stanford. Alors j'étais déterminée d'analyser par induction de quelle façon est-ce que cette culture de la classe des professionnels et cadres français et américains était semblable et différent. Ma critique de Bourdieu, c'était qu'il mettait beaucoup trop d'emphase sur la familiarité avec la culture cultivée. Quand on lit « distinction », on voit tout de suite que la distinction entre culture cultivée et une culture populaire est au centre des enquêtes sur lesquelles le livre repose. Et j'étais intéressée à développer une approche beaucoup plus inductive pour comprendre qu'est-ce qui définissait la culture des professionals and managers américains. Et en particulier, je voulais mettre l'accent où je voulais au moins rendre possible l'analyse de la dimension morale comme signal de valeur qui était plus ou moins absent dans les travaux de Bourdieu. Bourdieu travaillait sur la valeur, mais il disait plus ou moins que ceux qui mettent l'accent sur la moralité, ce sont des gens qui font de nécessité vertu, ce sont des losers qui définissent leur position comme choix alors qu'ils n'ont pas le choix. Et j'étais dans une perspective qui prend ce que les gens disent au sérieux, j'étais pas du tout prête à accepter ceci. Alors j'ai développé une méthode pour essayer de comprendre quels sont les critères dont les gens servent pour définir une vie, quelle est la valeur des gens. J'ai commencé vraiment comme point d'entrée de comprendre quels sont les critères par lesquels on détermine de sa valeur personnelle et de la valeur des gens. Et j'ai décidé de comparer des gens des classes moyennes supérieures qui vivaient à New York et à Paris, mais aussi à Indianapolis et à Clermont-Ferrand, parce que j'avais l'intuition que venant du Béarn, Bourdieu avait exagéré le type de valeur qu'il avait rencontré ici dans le 6e arrondissement, et je voulais voir un peu comment est-ce qu'une dimension culture périphérie, centre périphérie allait ajouter. Et j'ai choisi Indianapolis comme Clermont-Ferrand américain pour avoir un research design qui soit parallèle. Alors, mais mon vrai objectif était vraiment d'explorer les modèles culturels par lesquels les gens définissent une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le titre en anglais était « Money, Morals and Manners » parce que je voulais analyser et j'ai identifié de façon inductive le poids relatif du succès économique, du raffinement culturel et de la modalité dans la façon dont ils définissent une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, ça, c'était une critique que Bourdieu prédéfinissait les critères d'évaluation, mais il y avait aussi dans son concept de champ un présumé de, que la vie est un jeu de somme nulle, ce que je gagne, tu le perds, un système de position défini de façon relationnelle. Et j'ai voulu explorer empiriquement l'existence de zones de tolérance ou d'indifférence et de coexistence qui font partie de n'importe quel système de classification. C'est un modèle que j'ai appelé le bagel model ou le donut model parce que plutôt qu'avoir simplement ceux qui sont inside et outside, on a aussi une zone médiane de tolérance et d'indifférence qui font que dans le fond, si mon voisin a un mauvais goût dans la façon de s'habiller, je peux très bien dire « je m'en fous, ça ne me dérange pas, il peut s'habiller comme il veut ». S'il veut manger des donuts, il peut, je m'en fous. Alors, c'est quand on analyse comment est-ce que les gens font leur portent des jugements dans la vie quotidienne sur ceux qui les entourent, il faut laisser une place pour cette indifférence dont Bourdieu par laquelle Bourdieu était assez indifférent. Alors, si mon programme de recherche de départ est parti à partir de Bourdieu, il a évolué très vite pour s'ouvrir sur d'autres questions qui ne faisaient pas partie de son paysage intellectuel. En ce sens que plutôt que de parler de lutte de classification, ce dont il parlait, je me suis mise à travailler sur cette notion de frontière symbolique, comme Pierre-Michel l'a mentionné. Ce qui m'intéressait était non seulement d'explorer par induction quelles frontières les gens traçaient ou le sens qu'ils donnaient à ce qu'ils valorisaient ou non, par exemple, quelle signification qu'ils donnaient au pouvoir ou à l'argent, mais aussi aux questions de propriété et mécanismes des frontières symboliques. Des propriétés qui ont été depuis décrites dans les travaux de sociologie comme étant poreuses, mal marquées, nettes ou floues, flottantes ou rigides, épaisses ou fines. Les termes que je viens de mentionner, c'est des termes qu'on retrouve en sociologie de l'immigration, dans les travaux de Alba, dans les travaux en sociologie de l'identité, etc. Alors, de là à une sociologie des moyens, des modèles de citoyenneté culturelle ou une sociologie des processus d'inclusion et de tolérance et de reconnaissance, il n'y a qu'un pas. Alors maintenant, je comprends ce que je fais vraiment comme une atteinte à développer une sociologie culturelle de la définition de la citoyenneté culturelle ou de la reconnaissance. Alors on peut se dire, Nancy Fraser et Axel Honneth nous donnent un modèle philosophique pour penser à la reconnaissance. Mais il n'y a pas encore d'analyse sociologique systématique pour qu'on puisse mieux saisir les processus de reconnaissance. C'est ce qui me passionne maintenant. Alors, dans le contexte où ces idées émergeaient, et c'est encore le cas aujourd'hui, la majorité de la sociologie de l'inégalité portait sur la distribution des ressources et non sur les distinctions symboliques ou les distinctions d'identité ou de reconnaissance. Alors, si on pense au succès immense du livre de Piketty, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Le public est de plus en plus familier avec les patterns, les régularités de distribution de ressources et de richesses, mais par contre, on en est encore loin, je pense, de comprendre complètement quel est le rôle des dimensions culturelles dans la médiation et la création des inégalités. Bourdieu a fait beaucoup pour élargir les cadres explicatifs, certainement les notions de symbolique, de violence symbolique, de capital culturel ou de champ sont extrêmement importantes, mais ma position et qu'il demeure urgent de concentrer notre attention sur de nouvelles façons de penser la causalité et la production de l'inégalité, y compris au niveau des processus culturels, comme on a vu tout à l'heure avec le schéma que je vous ai présenté. En d'autres termes, je pense qu'il est nécessaire que nous servions de Bourdieu pour dépasser Bourdieu, pour réfléchir et, si possible, identifier d'autres relations de causalité. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait n'est pas important, ça veut dire qu'on ne veut pas répéter la même chose pour toujours. Alors,
Une des distinctions que j'avais introduites dans le livre Money, Morals and Manners, mais aussi, qui a été publié en français dans la, sous le titre La morale et l'argent, mais aussi dans un article publié en 2002 avec Virag Molnar intitulé Annual Review of Sociology, c'était la distinction entre frontières culturelles ou frontières symboliques et frontières sociales. Et par frontières sociales, on veut désigner les régularités de distribution de ressources matérielles qui se manifestent souvent dans des distributions démographiques telles, par exemple, l'intermariage, la concentration spatiale. Alors, ce sont des patterns de distribution qui sont des manifestations d'une inégalité cristallisée, si vous voulez. Alors que les frontières symboliques ont à voir avec des patterns de représentation. Et on s'intéresse à la relation entre les deux. Alors, en développant ces idées, j'ai été en conversation non seulement avec Bourdieu, mais aussi avec les post-bourdieusiens Luc Boltanski et Laurent Thévenot, qui en étaient à l'époque sur les régimes de valeur pour le livre de la justification qui est sorti en 91. Money, Morals and Manners est sorti en 92. Et Luc Boltanski avait passé une année à Institute for Advanced Studies au moment où j'enseignais à Princeton. Et on avait eu la chance de discuter de beaucoup de ces idées au moment même où elles émergeaient. Alors, tandis que leurs premiers travaux étaient fortement influencés par la tradition de théorie politique, à partir de laquelle ils distillèrent diverses façons de construire leurs arguments autour des notions de communauté et intérêt universel, autour de cette notion de cité. Ma propre approche était nettement plus inductive et s'attachait à explorer les catégories utilisées par les individus et les groupes pour définir la valeur. Ils sont devenus beaucoup plus pragmatiques et inductifs un peu plus tard, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas tellement. Ces différences étaient déjà présentes dans le livre intitulé « Rethinking Comparative Cultural Sociology » que j'ai coédité avec Thévenot et d'autres collaborateurs, y compris Cyril Lemieux et Nathalie Niche, qui ont continué à travailler sur les questions de valeur. Alors, ce livre, « Rethinking Comparative Cultural Sociology », envisageait des valeurs, des grammaires d'évaluation dans une perspective comparative. À cette époque-là, le groupe du GSPM n'avait pas encore fait de comparativisme. Plus tard, Laurent Thévenot, évidemment, s'est beaucoup intéressé. Alors, un des outils analytiques clés, c'était cette notion de répertoire ou de boîte à outils qui avait déjà largement essaimé dans la sociologie américaine, surtout à partir des travaux de Ann Swidler et Charles Tilly, à une époque où la notion de grammaire n'était que rarement utilisée dans le contexte français. Bien sûr, elle était présente chez les sémioticiens, mais beaucoup moins dans les sciences sociales, au-delà de Lévi-Strauss et autres. Et ces notions étaient centrales à mes recherches depuis mes années à Stanford, où j'avais été très influencée par la tradition phénoménologique de John Mayer, qui lui-même était influencé par Berger et Lockman, et qui m'avait beaucoup parlé de l'importance de considérer le « cultural supply side », c'est-à-dire quelles sont les boîtes à outils où dont les gens se servent pour faire sens de leur vie. Alors, c'est probablement pour moi le concept le plus important qui distingue ce que je fais de ce que font certains psychologues cognitifs où vous allez voir, c'est très important dans l'analyse des réponses à la stigmatisation dont je parlerai dans 3 semaines. Alors, cette préoccupation avec les schémas institutionnels de diffusion est demeurée au centre de mon programme, alors que Boltanski et Thévenot s'y intéressent, mais ils s'intéressent beaucoup moins à la question du pourquoi que à la question du comment, et en ceci, ils sont tout à fait fidèles à la traduction pragmatique qui informe leur travail. Alors que chacun d'eux a par la suite emprunté des voies différentes, je me suis particulièrement intéressée à l'explication des processus sociaux. Alors, pour revenir plus concrètement à ce que ces deux livres accomplissent, La morale et l'argent explore la façon dont les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les hommes d'affaires américains et français définissent la valeur d'une personne, le poids et la signification relative qu'il donne à divers critères d'évaluation. Alors, ce livre fut suivi par un deuxième livre, « La dignité des travailleurs », traduit en français quelques années plus tard, qui traite de questions similaires, mais à partir d'entretiens réalisés auprès d'ouvriers et employés américains et français, blancs et noirs dans la banlieue de New York, et français et nord-africains, français gaulois, comme mes interviewés disaient, et nord-africains, maghrébins, en banlieue parisienne. Le but était d'identifier par induction comment ces individus définissent leurs valeurs, les personnes de valeur et établissent des frontières, rejetant par-delà ceux qu'ils valorisent moins. Alors, ces deux livres se composent d'un grand nombre d'entretiens approfondis, ce qui était un peu expérimental dans la mesure où je traiterais l'entretien dans un contexte d'expérimentation, où je demandais à mes interviewés de me décrire quels sont les gens qui sont semblables et différents d'eux, supérieurs et inférieurs, en leur demandant de me décrire des voisins, des collègues de bureau, mais aussi des personnes abstraites. Je leur demandais aussi de me dire quels étaient leurs héros, quels étaient leurs rôles modèles. Alors, si on me dit, par exemple, que mon héros, c'est Mère Teresa ou Donald Trump, pour faire un cas facile, c'est très facile de voir quel est le principe derrière leur sélection, leur évaluation. Moralité, succès socio-professionnel. Si je leur demande comment ils élèvent leurs enfants, quelles sont les valeurs qu'ils veulent donner à leurs enfants, là aussi, il y avait des différences assez évidentes. Et l'accent ici est mis vraiment sur une approche durkheimienne au principe de classification, c'est-à-dire que mon but, c'est beaucoup plus d'analyser à travers des échantillons importants de 140, 150 personnes par pays, quels sont les critères qui sont partagés. Alors, ces individus ont été choisis au hasard en utilisant une méthode d'échantillonnage que je décrirai si ça vous intéresse. Et je m'intéressais à voir quelles sont les tendances qu'on retrouve à l'intérieur de chacune des échantillonnages. Alors, le but, c'est plus de découvrir quelles sont les tendances qu'on retrouve dans chaque endroit plutôt que de comprendre ce que chaque individu en tant que tel décrit. Je peux vous expliquer un peu avec plus de détails quelle est la logique d'analyse ici. Alors, j'ai identifié le caractère central des critères moraux mobilisés pour définir des gens comme moi à travers ces classes sociales. Alors, à la différence de Bourdieu, qui insistait bien sûr sur le raffinement culturel et la familiarité avec la culture légitime, j'ai noté qu'une proportion non négligeable d'individus appartenant à la classe moyenne supérieure établissait une distance entre eux et ceux qui avaient une faible intégrité intellectuelle ou un sens de la solidarité. Alors ça, c'est deux critères de moralité qui étaient particulièrement importants dans ces interviews. En ce qui concerne la classe moyenne supérieure américaine, ils se sont montrés encore plus catégoriques dans leur rejet des salauds, des phonies, des faux jetons et de ceux qui ont peu de probité morale, tels qu'ils sont décrits dans la tradition judéo-chrétienne, c'est-à-dire les voleurs, les tricheurs, etc. Les frontières morales qu'ils établissent s'articulent non autour du curieux dilemme du tramway qui empêche les philosophes de dormir la nuit, mais au niveau de leur effort pour être à la hauteur de leur propre conception de ce qui fait un bon ami, un bon compagnon, un bon parent. Et ça ici, c'est important parce que, en tout cas, dans le contexte des sciences sociales américaines, il y a maintenant une explosion dans le domaine de la philosophie morale qui prend souvent comme point de départ des questions comme les dilemmes de tramway. Alors, plutôt que de commencer à travers des jugements un peu artificiels sur qu'est-ce que vous faites, il y a un tramway qui va tuer votre enfant ou tuer 5 inconnus, on s'intéresse plutôt à voir comment est-ce que les gens réfléchissent sur les questions, à savoir comment est-ce qu'on détermine de la valeur morale des gens. Alors, à travers ce type d'analyse, j'en suis aussi venue à m'intéresser aux constructions différentes des pauvres, des immigrés et des minorités ethniques, de la welfare queen paresseuse aux États-Unis qui ponctionne l'État-providence, des immigrés et maghrébins en France qui ruinent le système avec leur grande famille, et ainsi de suite. En autres mots, les frontières morales nous permettent d'analyser le contenu des frontières sociales que ces groupes d'ouvriers et de cadres que j'ai interviewés tracent par rapport à d'autres groupes sociaux, que ce soit les pauvres, les immigrants et les membres d'autres classes. Alors, on s'intéresse à la construction stigmatisante associée à la classe sociale, à l'identité ethnique ou à l'hostilité envers des immigrants. Alors, c'est ce qui m'a amené à écrire The Dignity of Working Man, qui a vraiment ce genre de distinction au centre de l'argument. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, parce que le temps passe. L'approche ici est quand même assez différente de ce qu'on retrouve en psychologie cognitive en aidant l'économie comportementale, plutôt que de me concentrer sur les aspects intrapsychiques et décontextualisés de la cognition. Encore une fois, dans une tradition durkheimienne des formes de la vie religieuse, je m'attache aux définitions intersubjectives de la réalité, aux scénarios institutionnalisés, aux schèmes et aux systèmes de classification qui prennent un caractère objectif dans la mesure où ils sont largement partagés. Plutôt que de considérer que les valeurs et les croyances sont logées dans la tête des gens, les sociologues culturels sont davantage préoccupés par les processus auxquels les modèles culturels deviennent largement accessibles, exploitables et souvent déclenchés dans un environnement culturel, comme l'a souligné par exemple le sociologue Michael Schutzen dans son remarquable article « How Cultures Work ». Alors avec Laurent Thévenot, dans « Rethinking Comparative Cultural Sociology », nous avons par exemple exploré le recours au répertoire d'évaluation en France et aux États-Unis. Et nous avons soutenu que je soutiens que les frontières symboliques fournissent des conditions indispensables, quoique insuffisantes, aux frontières sociales, parce que si les représentations partagées permettent et limitent la monopolisation des ressources, d'autres conditions sont nécessaires, par exemple la pénurie. Alors, comme je le démontrerai dans la deuxième leçon, on peut encore une fois se tourner vers les processus culturels pour comprendre comment ça marche. Alors, avec mes collègues Mario Small et David Harding, on a écrit un article pour appeler à ce que les experts de la pauvreté se tournent vers des outils d'analyse comme la notion de cadre, de récit et d'institution pour précisément capturer cette dimension intersubjective et nous permettre de parler des facteurs culturels qui influencent la pauvreté sans nécessairement blâmer les victimes dans le contexte américain. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à parler des contextes culturels qui influencent la création de la pauvreté. On se met en porte-à-faux et on suggère que c'est important de considérer ces facteurs culturels dans les processus sociaux qui sont en action. Et ici, on se met dans une position très différente de celle qui domine présentement. Il y a le livre de Eldar Shafir et Mulanatan Scarcity qui a eu un grand succès et qui analyse l'expérience de rareté, surtout au niveau intra-psychologique. Et c'est tout dans la tête. Alors, notre position, c'est vraiment de dire qu'il faut retourner aux structures sociales et culturelles agissantes. Alors, si vous voulez, dans la période de questions, je pourrais retourner à ces sujets-là. On aura une demi-heure à la fin pour pouvoir discuter un peu. Alors, je sais que je passe très vite sur un certain nombre de questions, mais... Alors, une autre des questions qui était centrale au livre « La morale et l'argent », c'était la question du laisser-faire culturel, qui, j'ai suggéré, était beaucoup plus importante dans la société américaine que dans la société française. Pourquoi? La forte mobilité sociale et géographique, le fort régionalisme culturel, la diversité ethnique et raciale, la décentralisation politique et la relative faiblesse des traditions de culture légitime se traduisent par des cultures de classe grandement différenciées aux États-Unis qu'en France. Alors, évidemment, mon livre n'était pas le premier, ne fut que le premier d'une série d'études de cas utilisant la théorie de Bourdieu comme point de départ pour identifier les nouvelles questions empiriques concernant les inégalités. Alors, dans La dignité des travailleurs, j'ai documenté la conception de la valeur chez les ouvriers et employés en arrière-plan l'argumentation de la morale et de l'argent sur les classes moyennes supérieures me fournissait un point d'ancrage comparatif fondamental. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, je me suis orientée vers ces questions de racisme et xénophobie qui vont être au centre de la troisième conférence. Alors que les deux premiers livres problématisaient la fluidité et la rigidité des frontières de groupe que Bourdieu ne prenait pas soin de mettre en cause, en d'autres mots, parce que les gens ne tracent pas lucidement des frontières dont ils décrivent, quand ils décrivent le monde, l'attention portée sur ces frontières, je crois, aide à exercer une maîtrise sur la réactivité. Alors, c'est une approche originale qui définissait ce que je faisais. Mais pour retourner à la dignité des travailleurs, c'était une étude comparative et empirique des conceptions antithétiques de l'appartenance supérieure, de ce qui est central ou périphérique ou plus ou moins valorisé. Et ces interviews sur lesquelles le livre était basé fut conduite en 93 et mirent l'accent sur les énergies que mettent les ouvriers et les employés à garder le monde dans un ordre moral, à se faire obéir par leurs enfants, à payer leurs factures et à survivre en dépit de conditions de travail difficiles. Et j'ai montré que les travailleurs américains et français utilisent ce registre moral pour délimiter des frontières entre eux et ceux qui ne font pas partie de leur communauté symbolique du fait de leurs fautes et défauts moraux, les classes moyennes, les pauvres, les noirs et les immigrés, et c'est que ces groupes ne sont pas définis de la même façon dans les deux pays. Alors, ce que je démontrais, c'est que les travailleurs français voient généralement les pauvres comme faisant partie d'un « nous »,« us », non comme des sangsues, mais comme des victimes malheureuses et provisoires des imperfections du capitalisme, ou comme les membres d'une armée de réserve de travailleurs dont parlait Marx. Les minorités ethniques sont aussi intégrées à un « nous », les interviewés français minorant le phénotype comme base à la différenciation, comme la ligne droite du républicanisme français qui prescrit de faire abstraction des caractéristiques personnelles comme critère d'inclusion dans la communauté symbolique. Les travailleurs français utilisent le registre de la valeur morale pour établir des frontières rigides contre les immigrés, principalement ramenés aux immigrés musulmans en raison de leur faute morale présumée, c'est-à-dire de leur incapacité à se suffire à elles-mêmes, à être responsables, respectueux des droits de l'homme et de la femme, leur refus de s'assimiler à la culture française, etc. En dernier lieu, les travailleurs ouvriers français établissent dans des frontières morales rigides avec les classes moyennes et les élites, en raison de leur manque d'intégrité personnelle et de solidarité, leur incapacité à être loyaux vis-à-vis de leurs amis et leur narcissisme et leur obsession de l'autopromotion. En autres mots, ils pensent pas beaucoup de bien des gens de la classe moyenne, mais n'oubliez pas, c'est des interviews conduites en 93. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, les choses ont déjà bien changé. À la différence des ouvriers américains, les ouvriers français minimisent la segmentation interne de la société en intégrant parmi les gens comme nous, us, des individus situés plus bas qu'eux dans l'échelle sociale. En effet, la majorité des gens que j'avais interviewés, des Français que j'avais interviewés, se sont montrés indifférents ou n'ont pas fait mention des pauvres, ce qui n'était pas le cas pour seulement un quart des ouvriers américains, dont la moitié a aussi établi des frontières morales vis-à-vis des pauvres. En outre, un certain nombre d'ouvriers français exprimèrent explicitement de la solidarité par rapport à ceux d'en bas. Alors, on trouve finalement, pour résumer, une situation quand même très différenciée dans les deux contextes, avec des frontières symboliques fortes par rapport aux pauvres et aux noirs dans le contexte américain, des frontières beaucoup plus faibles par rapport aux immigrés, alors qu'en France, dans le contexte de 93, on avait des frontières beaucoup plus faibles par rapport aux Noirs et aux pauvres, mais des frontières beaucoup plus fortes par rapport aux immigrés. J'ai revisité ces questions dans un article publié en 2014 avec Nicolas Duvaux dans la revue French Politics, Culture and Society, où on a analysé la transformation des frontières symboliques par rapport aux pauvres et aux groupes d'immigrés. Des musulmans en particulier dans le contexte français à partir des sources secondaires. Et l'article que certains m'ont décrit comme étant extrêmement déprimant montre que les frontières par rapport aux pauvres se sont beaucoup renforcées dans le contexte français. Les travaux de Nicolas Duvaux montrent bien qu'on est passé à travers vers un régime néolibéral où les pauvres français, on leur demande de démontrer qu'ils ont un haut degré d'autosuffisance. Et en même temps, on a analysé dans cette littérature, on a démontré que d'autres catégories qui n'étaient pas du tout présentes quand j'ai fait l'analyse quand j'ai fait les interviews en 93, les jeunes et les Roms sont maintenant très centraux. Alors, on a vraiment eu, l'article suggère qu'il y a eu une révolution dans les frontières symboliques qui caractérisent la société française au cours des 20 dernières années. Et c'est une révolution qu'on lie à la transformation du néolibéralisme, à son influence croissante dans le contexte français. Alors, ce néolibéralisme a aussi mené à une détérioration des identités collectives parmi les travailleurs, avec une individualisation des aspirations et des identités de soi. Ce changement n'a pas cependant coïncidé avec la redistribution des ressources culturelles et économiques nécessaires à une réalisation de projets individuels de mobilité sociale. Au contraire, dans le contexte d'une inégalité croissante, ces ouvriers en sont venus à être, les immigrés en sont venus à être accusés des maux auxquels font face la société française, et la notion de solidarité en est par conséquent venue à être définie plus étroitement ces 30 dernières années, alors que la France opérait une transition d'une vision globale du contrat social à la mise en place de programmes stigmatisants indexés sur les ressources et où le paternalisme devient plus central. Alors, des sanctions symboliques et légales se sont multipliées contre ceux considérés incapables ou refusant de s'assimiler aux valeurs sacrées de la France, les musulmans et les pauvres en particulier. La xénophobie persistante et l'institutionnalisation en cours du pouvoir du Front national comme force politique majeure y sont certainement pour beaucoup. Ces évolutions sont d'autant plus problématiques que la diversité ethno-raciale de la France ne fera qu'augmenter dans un contexte d'insécurité nourri par un chômage de longue durée et une pénurie d'emplois susceptibles de s'aggraver. Il reste à voir si ces observations concernant le rétrécissement des communautés symboliques peuvent être généralisées à d'autres sociétés européennes, telles que l'Allemagne. Alors, je suis en train de développer un article avec deux autres doctorants qui concerne ces transformations, aussi très déprimant. Ces constats préliminaires suggèrent que les frontières morales vis-à-vis des pauvres, ce que révèlent les réponses aux enquêtes, les questions dont on se sert pour ça, c'est des questions portant sur, à savoir si la paresse des pauvres nous permet d'expliquer la pauvreté dans laquelle ils se trouvent. Alors, un nombre croissant de gens répondent qui sont d'accord avec cette position. Et ce qui suggère que les frontières symboliques par rapport aux pauvres se sont rigidifiées dans les pays européens qui ont vu la prolifération des politiques et d'idéologies néolibérales. De telles explications individualistes et morales de la pauvreté ont décliné dans certains pays, comme l'Islande, la Finlande et la République tchèque, et ont augmenté de manière spectaculaire dans des pays comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie. Nos constats suggèrent également des interactions entre les frontières morales vis-à-vis des pauvres et l'établissement des frontières morales par rapport aux minorités ethno-raciales et religieuses, les gens de couleur, les immigrés et les musulmans en particulier. Le néolibéralisme en Europe de l'Est et en Allemagne, pays qui ont une histoire de nationalisme civique, a été accompagné d'un affûtage des frontières vis-à-vis des pauvres, alors que ces sociétés se sont davantage ouvertes aux minorités ethno-raciales. En même temps, dans les pays d'Europe de l'Ouest qui ont une tradition de nationalisme civique, l'adoption d'une idéologie et de politique néolibérale est allée de pair avec un émoussement de frontières vis-à-vis des pauvres, tandis que les frontières vis-à-vis des minorités se sont aiguisées. Ceci suggère que le libéralisme ouvre et ferme différentes frontières contre une vision plus statique de l'établissement des frontières. On n'a pas de modèles nationaux ici. Beaucoup de travail reste cependant à faire avant de comprendre pleinement, de dégager les schémas de similitudes et de différences entre les pays d'Europe centrale, et de l'Est d'un côté, et de la Scandinavie et des États nationaux traditionnels d'Europe de l'Ouest de l'autre, de même qu'entre les pays au fort taux d'immigration et ceux au taux faible, ceux qui sont durement touchés par la récession économique et les autres, ainsi que ceux qui ont embrassé ou résisté les politiques néolibérales. Alors, en autre mot, on n'est pas prêt à publier ce papier, mais je voulais quand même vous présenter quelques résultats parce que ce qui émerge est quand même assez intéressant. Dans la mesure où on essaye de voir si on peut généraliser ou si on peut trouver des régularités. Ces formes d'exclusion sont basées sur des frontières culturelles existantes qui deviennent plus saillantes avec l'augmentation de l'incertitude et de la pénurie et des inégalités. Cette combinaison devient encore plus puissante sous l'influence du néolibéralisme puisque les réseaux de solidarité sont remis en cause sous la pression de l'individualisme et de l'individualisation du risque et le fondamentalisme du marché, qui est plus ou moins notre définition du néolibéralisme. Ce que cela présage pour l'avenir est davantage d'isolement, inséparable d'un déclin du bien-être collectif. Je soutiendrai que l'alternative à cela est une mobilisation plus active pour affirmer la valeur des vies ordinaires qui ne seraient pas strictement organisées autour, organisées selon le principe de la maximisation du profit, mais qui mettraient l'accent sur des genres de biens collectifs plus communautaires et de nature différente, loin de l'homme unidimensionnel, critiqué par Marcuse et Fromm, quand ils écrivent « être et savoir » comme deux modes alternatifs d'existence. Ces thèmes reviendront lors du troisième cours. La situation a bien changé au cours des dernières années, mais les enjeux demeurent plus ou moins identiques. Alors, le thème que vous voyez émerger ici, c'est celui que ce qui est optimal, c'est une situation où on a la coexistence de plusieurs critères de définition de la valeur. Alors, la situation, j'avais suggéré dans la dignité des travailleurs que les travailleurs français étaient... avait encore accès à plus une plus grande diversité de critères d'auto-évaluation que les travailleurs américains qui avaient plus tendance à se définir comme losers. Alors, la question qui se pose, c'est quels sont les processus par lesquels une pluralité de critères d'évaluation peut demeurer disponible. Alors, ceci nous amène au sujet général du bien-être collectif, qui est le dernier thème que je développerai aujourd'hui. Et ici, je me tourne vers ce livre « Social Resilience in the Neoliberal Era » qui présente les résultats de cette collaboration qui s'est déroulée depuis 2002. Alors, plutôt que de voir le néolibéralisme comme la source de tous les maux, on adopte une position plus ouverte qui est de dire le néolibéralisme, c'est plutôt un ensemble de transformations qui ouvre et qui ferme certaines possibilités. Alors, au moment même où la libéralisation de l'économie permet une croissance des marchés au Brésil, en Inde et en Chine, dans les BRICS, on voit une situation où les travailleurs européens ont des conditions de travail qui se détériorent rapidement. Alors, notre point de départ, c'est vraiment que le néolibéralisme est un processus syncrétique et qu'il faut analyser empiriquement les possibilités qu'il ouvre et qu'il ferme dans différents endroits. Alors, le premier chapitre qui est un peu l'encre du livre, c'est un chapitre écrit par Peter Evans, un sociologue du développement, et Bill Sewell, un historien de la France, où ils analysent le néolibéralisme comme une série de changements qui se renforcent mutuellement et qui ont lieu simultanément à plusieurs niveaux. Alors, au niveau économique, dans le fondamentalisme du marché, au niveau politique, avec une utilisation notable de la rhétorique des lois et des politiques publiques, dont le but est de renforcer les mécanismes de marché, au niveau administratif, avec la multiplication des outils de vérification, et au niveau culturel, avec une transformation profonde des définitions partagées de ce qui fait de la valeur, à travers cette notion de performance économique. Et vous voyez ici, on boucle la boucle, un rétrécissement des communautés symboliques et des solidarités de façon très proche à ce que je viens d'écrire dans le cas français, avec l'établissement de frontières plus rigides vis-à-vis des pauvres et des membres de groupes ethno-raciaux minoritaires. Alors, je me dois de souligner que ces transformations dans la définition de la valeur et dans la mesure du néolibéralisme promeut une vision du succès ou de ce qui constitue une vie bonne comme étant de plus en plus exclusivement centré autour du succès professionnel et économique. Et ça, en passant, c'est très clair aussi dans les interviews qu'on a conduites avec les Noirs aux États-Unis pour le livre qu'on est en train de compléter sur les réponses à la stigmatisation. Et que le succès professionnel et économique, c'est une façon de répondre au racisme qui marche. Alors, dans la dignité des travailleurs, j'avais expliqué comment ces travailleurs français étaient mieux équipés que leurs homologues américains parce qu'ils étaient beaucoup plus critiques des cadres, des Ken and Barbies, comme ils les appellent, parce qu'ils étaient moins susceptibles de se voir comme des losers, comme des perdants. Ils étaient plus susceptibles de mobiliser plusieurs matrices concurrentes pour évaluer leurs valeurs, y compris une matrice centrée autour de la valeur morale par laquelle la solidarité et le fait d'être là pour ses copains revêt une grande importance. L'influence du néolibéralisme et l'insistance qu'il met sur la compétition et la liberté des marchés encourageraient un nombre croissant de travailleurs américains à admirer et à envier ou à vouloir imiter les capitaines d'industrie ou la upper middle class, de la même manière que la France contemporaine produit des petits moyens, ce qui désigne un groupe intermédiaire entre la classe ouvrière d'où ils sont issus et la classe moyenne à laquelle ils aspirent, qui a adopté avec conviction les principes clés du néolibéralisme dont Sarkozy était le héros. Alors, de façon, l'évolution qui va avec ce néolibéralisme qui, à un certain niveau, est seulement un renforcement du American Dream. Ça veut simplement, l'American Dream était là, mais ça devient encore plus accentué. Ça devient de plus en plus le principe exclusif à travers lequel les gens définissent leurs valeurs. Alors, l'un des marqueurs et moteurs du bien-être collectif, nous proposons dans ce livre « Social Resilience in the Neoliberal Era », mais aussi dans le livre qui l'a précédé « Successful Societies », qu'un des moteurs du bien-être collectif est la capacité d'une société à rendre accessible une multiplicité de répertoires à l'aide desquels les individus peuvent déterminer leurs valeurs, de telle sorte que moins d'individus soient condamnés à se voir comme « losers » d'un genre ou d'un autre. Alors ici, nous revenons à Eric Fromm et à « L'homme unidimensionnel » de Herbert Marcuse. Le bien-être collectif serait nourri de la diffusion de modèles de reconnaissance variés, tant et si bien que sans fleurs différentes pourraient être éclore. Ici, c'est une citation, je paraphrase Mao, mais ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français. C'est l'une des clés du bien-être collectif dont je parle, mais c'est aussi une des normes de laquelle on s'éloigne partout dans le monde pour la remplacer avec une configuration culturelle proche de celle qui existe aux États-Unis et qui entraîne, je crois, des effets désastreux. En conséquence, une volet de notre analyse consiste à maintenir une pluralité de critères pour évaluer la valeur des gens, pluralité qui tend à être écrasée par la pression du néolibéralisme, car encore une fois, la valeur des gens tend à être évaluée à travers du prisme invasif du succès économique. La question du maintien des pluriarchies et des hétérarchies est centrale dans l'étude du bien-être collectif et plus généralement dans la sociologie de l'évaluation, comme je le soutiendrai dans le deuxième cours. Plus un groupe de statut peu élevé peut maintenir l'idée de sa propre valeur indépendamment des autres, mieux il s'en sortira. Et le travail de marquage des frontières joue un rôle central dans ce processus. Ceci ne peut se comprendre qu'en se concentrant sur les microdynamiques d'inclusion, d'où l'importance de développer une sociologie de l'évaluation et de la valorisation pour comprendre comment l'appartenance sociale est étendue et contestée, comme je le théoriserai dans le cours suivant et le démontrerai dans le troisième. L'objectif est d'élaborer une théorie générale qui dépasse les chemins bourdieusiens ou foucauldiens parcourus en long et en large et en travers pour exprimer comment les processus culturels alimentent les inégalités. Alors, c'est l'idée d'une sociologie de la reconnaissance dont je parlais plus tôt. Alors, dans « Social Resilience in the Neoliberal Era », nous envisageons une résilience sociale en analysant la façon dont les institutions et les répertoires culturels la permettent. Nous y procédons en considérant les outils et les ressources mis à la disposition des individus et des groupes pour faire face aux défis qui accompagnent le néolibéralisme. La disponibilité des messages culturels qui favorisent la diversité et les faibles statuts des frontières font partie de ces outils et ces ressources. Par exemple, un jour, j'étais à San Francisco. Et je me souviens, j'étais dans le métro, je suis sortie du métro, il y avait devant moi de grands panneaux célébrant The Rainbow Nation. Alors, c'est un exemple du processus par lequel des messages favorisant la diversité deviennent disponibles. Je pourrais vous donner d'autres exemples, j'en parlerai plus tard. Alors, ces répertoires culturels peuvent agir comme des tampons ou des échafaudages permettant de résister à l'impact du fondamentalisme de marché. Ce sont des ressources de solidarité et de soutien qui contribuent au bien-être subjectif et physique. Alors, évidemment, il y a une obsession ces jours-ci avec la résilience individuelle. Il y a une littérature importante qui est devenue disponible sur les concepts tels... comment on appelle ça? Bon, la résilience en général. Et grit, par exemple, le concept de grit est devenu extrêmement populaire. Nous, plutôt que de se préoccuper des caractéristiques individuelles, on s'intéresse aux outils institutionnels et culturels que les sociétés mettent à la disposition de leurs membres pour les rendre plus résilients. Alors, c'est vraiment une logique très différente de ce qu'on retrouve, par exemple, en psychologie sociale. Alors, les différents membres de notre groupe se concentrent sur différents aspects de ce processus-là. Par exemple, Will Kimlicka s'est concentré sur la question du multiculturalisme comme répertoire culturel. Il y a aussi parmi nos membres Anne Swidler qui a analysé le cas de la résistance à la crise du sida en Afrique, au Malawi en particulier, et le rôle des institutions pour donner aux individus la capacité de résister au sida. Je peux développer si ça vous intéresse. Alors, c'est le contexte dans lequel j'ai développé l'étude sur les réponses à la stigmatisation à laquelle j'ai fait allusion un peu plus tôt. Et je vais vous donner un preview ici. Peut-être que c'est trop petit, que vous ne verrez rien. Mais plus ou moins, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre quels sont les types, quel type d'expériences de stigmatisation et discrimination sont le plus fréquents parmi les 5 groupes qu'on analyse et quels sont les outils qui sont mis à leur disposition pour leur permettre de faire face à la situation. Alors, vous voyez ici, par exemple, la présence des répertoires culturels est absolument les mythes nationaux, la notion de melting pot aux États-Unis, racial democracy ou le zionisme en Israël sont essentiels dans la façon dont ils répondent, où ils trouvent les outils pour répondre à la stigmatisation. Alors, c'est une sociologie des capacités, des processus de construction des capacités collectives. C'est ce qu'on est en train de développer. Alors, je parle déjà depuis presque une heure. Je pense que je vais m'arrêter ici pour qu'on ait le temps de discuter. Je pourrais continuer un peu plus. Alors, vraiment, vous voyez où je me dirige. C'est vraiment à travers ce genre d'analyse empirique d'essayer de développer une sociologie des formes de reconnaissance, une sociologie des conditions sociales et institutionnelles pour la reconnaissance, qui serait une alternative très marquée par rapport aux façons dominantes de réfléchir sur la résilience qu'on retrouve tous les jours, certainement dans le New York Times. Je ne sais pas quelle est la situation ici maintenant, mais il y a eu vraiment une transition, je pense, dans le monde des sciences sociales des dernières années où, de façon de plus en plus marquée, les behavioral economics ainsi que la psychologie cognitive nous donnent les outils à travers lesquels les classes moyennes, la upper middle class, réfléchit aux problèmes auxquels on fait face. Et mon défi est en partie d'essayer de retourner aux sources plus structurelles de la sociologie. Mais par structurelle, je veux dire non seulement avec un accent sur les structures sociales, mais aussi sur les cultures sociales. Sur dans une bonne tradition durkheimienne française, sur les schèmes culturels partagés, institutionnalisés, à travers lesquels on appréhende notre environnement pour offrir une alternative et pour comprendre les changements auxquels on est témoin, non seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Alors, je m'arrête ici. Merci.